Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Et bonjour à tous, j'adore toujours autant ce générique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Tom et son super pull de Noël Deadpool en régie. Je suis absolument fan, même si c'est pas encore Noël. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste. Pardon, déjà je tousse. Clara Langelez, tu es ma première artiste de la saison. Salut Clara.
Salut Laura.
Alors Clara, ça tombe bien que tu sois là avec moi aujourd'hui parce qu'on a une belle actu à partager. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais dans cette première partie, je vais faire un peu comme j'ai fait jusque-là la saison dernière avec les autres artistes. On va revenir un petit peu sur ton parcours. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, tout ça. Parce que finalement, je te connais peu, donc ce sera l'occasion d'en savoir plus sur toi. Donc dis-nous un petit peu, quel est ce parcours.
C'est toujours la question, alors par où je commence.
Ah ouais. Ouais. Chronologiquement, c'est plus simple.
Ouais, c'est clair, on va commencer par le début. Déjà, par rapport à cette passion qu'est la création d'une manière générale, c'est là depuis toujours, je dirais. Mmh. J'ai toujours dessiné, aussi loin que je me souvienne, vraiment depuis la primaire, je dessinais beaucoup. Okay. J'adorais ça.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et quand j'étais petite, j'avais des carnets dans lesquels je dessinais des femmes que j'habillais.
Ah.
Donc mon rêve d'enfant, c'était de devenir styliste.
D'accord.
Je sais pas d'où ça m'est sorti.
Tu l'as dessiné toi-même ou c'était genre avec le jeu qu'on avait quand
on était... fameux. Alors ça a dû m'inspirer, mais je l'ai dessiné moi-même. Déjà j'avais quelque chose autour de la femme, quoi. Il y avait un truc où je dessinais beaucoup de visages depuis toujours, sans savoir pourquoi. Mais j'avais des carnets de collection comme ça, j'adorais, je créais des tendances, des collections et tout. J'étais à fond.
Ah ouais.
Ah ouais.
Petite Clara créatrice.
Ouais. et de fil en aiguille, du coup, quand il a fallu s'orienter, bon, j'étais pas trop mauvaise à l'école et on m'a dit, il faut que tu fasses un bac. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Ouais. Je voulais partir sur un CAP couture.
Ok.
On m'a dit, non, il faut que tu fasses un bac pour rejoindre les écoles d'art supérieur ensuite. Tu fasses un bac STIR appliqué.
D'accord.
Bon, moi, j'étais un peu paumée, je me suis retrouvée là-dedans sans trop savoir. J'ai eu la chance d'être prise à Amiens parce que je viens du nord de la France.
Ouais. Mais donc déjà à ce moment-là, l'objectif c'était quand même d'aller vers une école d'art.
C'est fou comme je me suis un peu laissée guider par j'avais des gens bienveillants autour de moi qui m'ont bien orientée et je suis un peu allée sans savoir où j'allais, quoi.
D'accord.
Mais en fait il y avait rien d'autre qui me parlait vraiment.
Ouais.
Et du coup j'y suis allée sans même avoir d'idée de ce à quoi correspondait vraiment ce bac, quoi.
D'accord, ok.
Ni même savoir ce qu'étaient vraiment les arts appliqués. Moi, on m'a dit voilà, faut que tu fasses d'abord ce bac là pour faire ça ensuite.
Ok,
j'y vais, quoi.
Et même sans savoir ce que t'allais faire après ça, quoi.
Oui, voilà. Mais bon, en même temps, à 15 ans, je trouve ça un peu, on sait pas trop, enfin on a des idées mais on est encore tellement jeune, quoi.
C'est clair.
Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait, ça a été une évidence.
Ah ouais, révélation totale.
Ouais, et tout ce qu'on apprend, donc en fait, c'est tout ce qui va entourer la création vraiment à appliquer, donc plutôt design.
Mm-hmm.
Les analyses, les analyses de cas, on appelle ça, où on étudie comment un objet fonctionne dans ses rouages, dans sa conception. Les projets, où on a des sujets qui nous sont donnés dans tous les domaines des arts appliqués. Et où on doit produire où on doit créer en fonction de ce qui est demandé.
Okay.
Et c'est donc en faisant ce bac que j'ai découvert l'architecture.
Okay.
Et en fait, j'ai adoré parce que c'est un art total qui rassemble beaucoup de choses. à plusieurs échelles et du coup j'étais attirée par ça finalement à la fin de ce bac.
Okay.
Et donc j'ai enchaîné avec, avec un BTS design d'espace à Paris et j'ai continué dans cette voie-là jusqu'à être diplômée archi intérieure du coup.
D'accord.
Ah ouais. Okay. Et donc finalement le dessin, enfin ce truc de stylisme, de création de vêtements, il est un peu passé en second plan, mais le dessin est toujours resté, surtout que c'est des études qui sont quand même très créatives, on dessine beaucoup, on n'a pas de cours de dessin, on dessine en continu en fait, on pratique beaucoup le dessin. Mm-hmm. Et puis on nous apprend la perspective, on nous apprend quand même à développer une certaine sensibilité, une touche, une écriture.
Ok. Ouais. En plus des techniques, tu parles de perspective, effectivement.
Ouais, et en fait, c'est ce qu'on nous apprend. Ce bagage-là, aujourd'hui, il m'apporte énormément. C'est un schéma de pensée, en fait, qu'on nous apprend. C'est plutôt à se poser les bonnes questions.
Ok.
Et à développer des réponses pertinentes en fonction de ce qu'on nous demande, à être un peu innovant d'un point de vue créatif.
D'accord.
Je pense que c'est ça, finalement, designer quelque chose, c'est comprendre le besoin, c'est ça, ça part toujours d'un besoin, en fait.
Ouais, comment chercher à y répondre de manière innovante,
en dessinant l'objet, okay, et en amenant aussi une certaine esthétique. Il y a beaucoup de niveaux qui se croisent, en fait, autant sur le techniquement, il faut que ça fonctionne. C'est vraiment le propre des arts appliqués, c'est le cahier des contraintes. On a une contrainte et il y a une fonction derrière ça.
Okay.
C'est pas,
oui,
juste,
c'est pas juste
créatif et du beau pour du beau, bel objet. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs les arts du coup appliqués des arts plastiques.
Ok.
C'est les deux grands domaines. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même une formation qui vient des arts appliqués, quoi.
D'accord. Enfin, j'en apprends tous les jours. Justement, je savais pas quelle était la différence.
Bah, voilà,
merci pour ce petit cours.
Ah ouais, voilà.
Donc du coup, tu es diplômée d'architecture d'intérieur.
Ouais.
C'est
tout
ça.
Tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après ça? Tu continues à dessiner, j'imagine, toi. De ton côté, enfin, ça t'a jamais vraiment quitté.
Ouais, mais pour autant, c'est quand même. Donc en effet, après, donc c'est des études qui sont très prenantes quand même. C'est vrai qu'on est.
On sait que le rythme est.
Ouais, voilà. Est costaud, BTS, quoi. Puis ensuite le DSA qui suit ce diplôme-là, en passant par l'école d'archi pour le coup, mais que j'ai arrêté. Mais bref, c'est vraiment des études un peu intenses. Donc, je dessine, mais je dessine pour le projet.
Okay.
Franchement, j'ai peu de temps pour dessiner à côté.
Ouais.
De temps en temps, là, ça me prend. Je sors un visage, un truc. ça me fait du bien. Et puis, je me remets dans mon truc. Quoi. Mais franchement, à ce moment-là, j'ai quand même pas trop le temps de dessiner pour moi. Et ce qui se passe, c'est que je suis à Paris. Je sors des études. Je trouve un boulot dans une boîte qui fait essentiellement de la réhabilitation dans le tertiaire. Donc, aménagement de bureaux, mais très, très cool. Très à propos en réfléchissant vraiment aux typologies de travail, donc comment l'archi intérieur répond aux nouvelles méthodes de travail. Donc
d'accord,
c'était vraiment intéressant. On n'était pas sur de l'open space à tire-larigot. Enfin, c'était très très chouette comme travail. Et donc je reste dans cette boîte pendant 2 ans, un peu plus, et puis au bout d'un moment je me dis qu'en fait je cours tout le temps.
Ouais.
et je sais pas trop pourquoi je cours, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire que la flamme un peu du début, c'est un peu éteinte et je me pose des questions et je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle. Du coup, je plaque tout.
Ah ouais?
Ouais, je plaque tout.
Ah ouais?
Oh ouais. Genre, je m'en vais, je lâche pour la part, j'amène tout dans le nord, toutes mes affaires et je pars en Amérique latine.
D'accord, c'est là que tu pars en Amérique latine. Okay.
Ouais.
D'accord.
C'est à ce moment-là. Et c'est vraiment, donc je pars 9 mois, mois au Brésil, Argentine, Bolivie. Et c'est, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait à ce jour, que de m'offrir ce laps de temps.
Cette respiration.
Pour me retrouver, en fait.
Ouais.
Parce que finalement, ce qui est beau, c'est que l'argent, je l'avais mis de côté. Quand j'étais en sac à dos, donc j'avais le strict minimum avec moi, l'essentiel. Et en fait, du coup, ça dégage un espèce d'espace-temps pour accueillir autre chose. Et ce temps-là, finalement, dans nos quotidiens, alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, mais c'est dur de le trouver.
Et oui.
Parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui gravitent et qu'on a tous et qui font au quotidien, mais où c'est plus compliqué de se retrouver, je trouve. Et du coup, c'est en voyageant, en ayant ce temps-là, que je me suis rendu compte, je me suis déjà remise à dessiner beaucoup à travers des carnets de voyage. Et de fil en aiguille, en fait, là-bas, en plus en Amérique latine, il y a une très grosse culture de la peinture murale, mm-hmm. bien plus développée. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même très développé. Moi, je parle de ça, c'était il y a 8 ans ou 9 ans, ce voyage. Maintenant, ça passe vite.
Peut-être qu'il est temps de repartir.
Ouais, tu ne fais pas si bien dire. Enfin, tu ne crois pas si bien ça.
Mais du coup, c'est quand même né là-bas. Donc forcément, ça devait, ouais. à l'époque où tu as été, en tout cas, ça devait être vraiment très présent. Quoi.
Ouais, il y avait quelque chose de très très fort et sur beaucoup d'aspects, et du coup c'était très inspirant, et en fait de fil en aiguille j'ai été amenée à faire une peinture murale en Argentine dans une auberge de jeunesse
pendant ton voyage là-bas.
Ouais,
ok. Et c'était ta première c'était ton premier mur?
Alors non, c'est ça qui est drôle.
Ah, tu caches des trucs.
Non, mais c'était mon premier mur, c'était improbable. Je dessinais donc les portraits, en fait, si j'en faisais quand même depuis un moment. Et en fait, j'avais mis sur Le Bon Coin une petite annonce comme quoi je faisais des portraits, quoi, pour me faire un peu de sous.
D'accord. Donc
j'avais mis quelques dessins de portraits. Les gens m'envoyaient la photo, je faisais le dessin, je leur envoyais, puis ils m'envoyaient
Excellent.
Les sous. Et je me faisais un peu de sous comme ça, quoi, vraiment.
Il y a un
gars qui... qui m'a appelé dans un bar. Et il s'avérait que c'était dans le village de ma grand-mère. J'avais, je sais pas, peut-être 16 ans. Et il me dit, écoutez, est-ce que vous serez capable de faire une femme dans une grotte? Il me dit, moi, je l'aurais bien fait tout seul, mais je me sens pas. Puis bon, il y avait un peu de soin à prendre, donc moi j'ai dit bon, ok. Alors bon, le sujet me parlait vraiment pas. Et donc en fait, je me suis retrouvée à faire une peinture de femme dans une grotte, mais vraiment l'image qu'on imagine, hyper old school, en noir et blanc.
Ah ouais.
Vraiment pas, avec des stalactites et
tout.
Oh,
purée. T'imagines le truc? J'imagine tout à fait.
Je sais pas, le mur il faisait 2 mètres par 1 m50, mais du coup j'avais finalement déjà fait une fresque murale, une peinture murale.
Ouais, ouais.
Donc trop drôle. Mais donc là, en Amérique latine, il s'avère qu'il y a une auberge jeunesse où on y va quand même au culot avec ma pote qui dessinait aussi, en mode « oui, on est artiste, regardez, on monte au carnet, on avait pris 2-3 références de fresques sur Pinterest, on a regardé ce qu'on fait. »
Ah, les escrocs.
Ah ouais, grave. Et ils nous ont dit « ok, allez, vamos !» Et genre vraiment, ils nous ont dit « ok, vous pouvez rester une semaine. » Et vous nous faites une petite peinture et on payait pas rien pendant une
Trop
semaine.
Bien.
Quoi. Ouais.
Bon, c'était pas mal comme deal.
Ah non, mais grave. Et je fais ma première fresque comme ça. Et moi, ça a été une évidence. Enfin, je sais pas. C'était hyper évident pour moi de dessiner sur ce mur. À l'époque, j'utilisais beaucoup le Posca. Et du coup, suite à ça, j'ai quand même voyagé un mois en Patagonie. Oh. Et j'ai 4 fresques dans 4 auberges de jeunesse différentes qui sont mes premières fresques en Argentine. Ouais.
Purée, excellent.
Ouais, ouais.
Ah bah, grosse révélation, donc ce voyage à plein de niveaux, j'ai l'impression.
Exactement. Et du coup, je rentre en France et je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire.
Ok. Et donc, tu viens t'installer à Montpellier?
Au bout d'un an de goupillage, ouais, je finis par me rendre compte que Paris, c'est un peu compliqué pour amorcer une transition, parce que moi, j'étais à mon compte en tant qu'archi, j'étais auto-entrepreneur. Ouais. Mon voyage, je me le suis payé en totalité, aucune aide. Et du coup, c'est hyper dur de transitionner quand il faut continuer à vivre. Et du coup, j'ai pas mal basculé, quand je suis revenue de voyage, en restauration en tant que serveuse. Okay. J'avais beaucoup fait ça pour payer mes études aussi à Paris. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir des contrats, quelques contrats, et d'avoir une ouverture de droit au chômage quand je suis venue m'installer à Montpellier.
Okay. Et de pouvoir, du coup, toi, avoir ton activité à côté et de commencer à mettre...
Même de pouvoir me consacrer complètement
à ça.
Je faisais que dessiner pendant quelques... Enfin, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai vraiment fait que ça et resté très ouverte envers les gens. J'étais hyper curieuse, j'avais vraiment envie, quoi. J'avais vraiment envie de vivre de ça, d'en faire mon métier, de développer ce volet-là artistique.
Et pourquoi Montpellier, du coup, il y avait quelque chose qui t'attirait ici ou une attache particulière?
J'avais une très bonne amie qui était là et qui m'a dit qu'elle m'accueillait gracieusement sur son canapé, donc ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé la décision de venir particulièrement ici à Montpellier, mais autrement, le sud, parce que je ne sais pas, depuis que je suis petite, j'ai un peu de famille vers Avignon. Mmh. Donc, je venais de temps en temps dans le sud de la France. Et ça m'a toujours fascinée. Je sais pas, y a un truc, les cigales, les platanes, la lumière, les jeux de boules, les cafés, les terrasses. Il y a un truc, la lumière. Vraiment, ça m'a... Je ne sais pas, il y a toujours eu un truc qui m'a appelée. Et depuis petite, je me disais... faudrait que j'irai vivre dans le sud un de ces jours.
C'est marrant ce truc de lumière. Je me rappelle quand j'étais surveillante, je parlais avec un prof qui venait du nord. Sa femme venait du nord et elle disait que pareil, en fait, il y avait un truc avec la lumière dans le sud, qui n'était pas pareil visiblement dans le nord de la France, et c'était quelque chose d'assez fou, quoi.
Ouais, mais je pense qu'on peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas qu'on n'a pas habité dans le...
Ça doit être ça.
Franchement, ouais, il y a vraiment... Enfin, moi, au quotidien, la lumière qu'il y a ici, même en hiver, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien.
Et donc, du coup, là, tu es à Montpellier. Et comment est-ce que ça démarre pour toi, vraiment? Est-ce que, comme d'autres artistes, t'as commencé à faire des choses dans la rue aussi pour un peu montrer ce que tu faisais?
Là, en fait, du coup, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment amorcé ma transition vers l'artistique par le mur.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est le mur qui m'a vraiment motivée à aller vers ça. Parce que c'était pour moi la parfaite rencontre entre finalement tout ce bagage, là, toutes ces études que j'ai fait en architecture. Et c'est quelque chose qui me passionne encore aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Mais du coup, c'était vraiment une fusion entre ce rapport à l'architecture, à cette échelle-là, et le dessin, la peinture, la création. Et donc j'aime particulièrement ce support-là, en fait. Y a vraiment quelque chose qui m'appelle dans le fait de dessiner sur un mur. Ça me... Particulièrement,
ouais, me parle.
Et donc, c'était vraiment mon cœur de... Enfin, je voulais vraiment faire ça. Et donc, par rapport à ça, j'avais très envie, en sachant quand même que moi, j'ai plutôt une approche à la base qui est très dessin, très graphique. Donc, je dessinais essentiellement. Et le dessin au trait, à grande échelle, c'est pas forcément évident à prendre au début, à traduire, en tout cas à grande échelle. Du coup, j'ai commencé par coller dans la rue pas mal, par faire du collage au quartier Méditerranée, des visages que je dessinais, des portraits, et j'ai commencé comme ça, en fait, c'est venu, enfin, il y a eu plein de choses qui se sont faites et qui m'ont permis, en fait, un petit peu d'aller vers ça. Et c'est vrai que c'est notamment le premier collage que j'ai fait quartier Méditerranée, qui s'appelait d'ailleurs, c'est une femme brésilienne qui penchait la tête, et dans sa chevelure il y avait des favelas de Rio, une photo que j'avais prise là-bas. Et c'est le premier collage que j'ai fait, et ce collage m'a ouvert énormément de portes. Ça a permis en effet de me faire connaître, entre guillemets, de faire connaître mon travail, en tout cas de le faire découvrir. Ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais là. Et suite à ça, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, des résidences, la galerie éphémère en 2019, et ainsi de suite.
On va y arriver, mais d'abord, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que je propose, parce que cette année, j'ai envie de proposer moi-même ma propre playlist, n'est-ce pas? Et ce sera Purple Sun de Canons, et on revient juste après.
I'm
De retour avec ce morceau. Qu'est-ce que tu as trouvé bien ou pas?
Ouais, super, très bon choix.
Bon, ça va, c'est cool. ça me conforte. Je remercie Léa, du coup, mon alternante, pour l'aide dans ce choix.
Merci Léa.
Alors, on va revenir un petit peu, parce que je sais pas combien de temps il nous reste, mais j'imagine pas beaucoup parce que le temps file. On va parler un petit peu de tes projets avec Line-Up et puis on abordera l'exposition qui est en ce moment à l'Espace Feuillade. Donc, on l'évoquait un peu en off. Là, le premier projet que tu as fait avec nous, c'était ce mur chez des particuliers,
ouais.
Dans un très bel appart d'ailleurs.
Maison.
Enclavée, ouais. C'était dingo. Et tu avais fait un méga mur en plus. Enfin, il était grand.
Ouais, c'était grand, ouais. Ouais, c'était mon plus grand à l'époque. J'avais jamais fait plus grand. Et ouais, il faisait, je sais plus, au moins 12 mètres en tout.
Ouais,
après, j'avais pas
immense.
Tout peint, j'avais quand même pas mal travaillé avec le vide, ouais. Mais bon, ça remontait quand même un peu haut sur l'échafaudage.
Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle de cet échafaudage, ouais. Kenny m'avait fait monter sur l'échafaudage.
Ouais. Et tout, j'avoue qu'une fois tout en haut, c'était plus très stable, c'était un peu moyen.
Et puis, il y a eu cette œuvre au polygone que tu as fait avec Arnaud, Arcane. Mais qu'on appelle aujourd'hui, qui est revenu à son nom civil, lui aussi, Arnaud de Jésus Gonçalves. Cette superbe œuvre, alors donc pour le polygone, à la base, vous deviez être un binôme à travailler sur des panneaux, hein, de brise-vue, de chantier un petit peu. Puis ça a pris une autre tournure et ça a fini dans cette œuvre suspendue qu'on voit encore aujourd'hui, avec ses deux visages et ses éléments. Enfin, ça, c'était assez fou, enfin, même pour nous, parce que c'était la première fois qu'on faisait un projet comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? comment tu as appréhendé ce projet? Enfin, comment ça s'est passé, quoi?
Ce projet, ouais, ça reste un projet assez fou de par les craintes en fait qu'on a eues. C'est-à-dire que quand on a eu la possibilité de suspendre suite à des évolutions liées à l'avancement du chantier.
Ouais.
Il n'était plus question de peindre sur des panneaux, mais en effet, on avait cette solution pour suspendre. Et c'est vrai que moi, tout de suite, à ce moment-là, je me suis projetée sur une espèce d'anamorphose, vraiment une décomposition dans l'espace, un morcellement dans l'espace,
ouais.
D'un visage. Puisque la fresque, l'esquisse qu'on avait préparée avec Arnaud au début, on devait chacun faire un visage et puis on retrouvait aussi des éléments comme ça autour qui gravitaient. Et du coup, l'idée, c'était de faire une espèce de fusion de ça, mais comme un puzzle tridimensionnel éclaté dans l'espace en trois dimensions, quoi.
Okay.
Et c'est vrai que moi, dans mon travail des visages, je travaille plus trop les visages, mais dans l'idée, ce que je travaille, c'était les différentes couches qui nous constituent. Et du coup, je travaillais déjà beaucoup sur cette idée de superposition sur le visage. Mm-hmm. Je visualisais très bien comment mettre ça finalement en espace, quoi. Et donc, en travaillant main dans la main avec Arnaud, en discutant, en allant chercher sa sensibilité davantage en peinture, là où moi, j'étais un peu plus graphique, on est arrivé à cette composition.
Une composition que vous pouvez voir encore au Polygone parce qu'elle y est. Exactement. Et elle est canon. Vu qu'il nous reste déjà que 4 minutes, parce que c'est allé trop okay. vite. Purée, c'est un truc de fou. Du coup, on va parler de l'expo quand même. Ouais, voilà. Donc, dans le cadre du projet Contre-Courant qu'on mène avec la ville et l'agglo de Lunel, avec Sonia et Loïc que j'ai reçus au tout début de cette saison, tu proposes ton exposition personnelle à fleur de peau à l'espace Feuillade. Tu as investi l'espace toute seule, comme une grande. Oui. Après un accrochage intense et haut en couleur que j'ai eu le privilège d'assister. Raconte-nous un petit peu, alors du coup, assez rapidement, raconte-nous un petit peu le propos derrière cette exposition très immersive.
À fleur de peau, c'est un peu la suite de mon travail en profondeur sur les émotions, sur ce qui nous traverse. Mm-hmm. Donc c'est la suite finalement de ce travail autour des portraits, puisque les portraits, en fait, ça partait de là, ça partait du fait d'utiliser le portrait pour montrer un peu ce qui se cachait derrière les visages. Et donc ces textures que je travaillais sur les visages, elles ont fini par se...
Matérialisé
seul, en tout cas, elles ont fini par exister sans le portrait. Mm-hmm. Et elles sont allées vers ce que je propose aujourd'hui dans cette exposition. Donc à fleur de peau, ça reprend beaucoup d'aspects qui sont évoqués pour moi à travers les pièces. C'est, à fleur de peau, c'est être très sensible déjà, mm-hmm. c'est ressentir les choses très fort. Et finalement, à travers ces formes un peu abstraites que je développe sous plein de formes différentes, pour moi, c'est comme des propositions formelles, des émotions qui nous traversent, qui mmh. n'ont pas de finitude, qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de matière. Et donc, c'est comme si je proposais un peu un lexique sensible des émotions. Oui,
une espèce de traduction de quelque chose qui est impalpable
exactement.
Au possible. Hein, du coup, on retrouve dans cette exposition, tu as investi tout l'espace avec des toiles, avec des dessins et avec du volume, avec des pièces complètement abstraites que j'ai fait découvrir du coup à des terminales art plastique du lycée Feuillade. Ouais. C'est très intéressant d'avoir leur retour d'ailleurs. Certains y ont vu des coraux.
Ouais, beaucoup.
Beaucoup, ouais. Des fleurs effectivement, parce que c'est vrai que ça fait penser.
Il y a une dimension, ouais.
Voilà. Et c'est vraiment un univers complètement immersif que tu nous proposes. Hein. On est vraiment, j'ai l'impression, au cœur de tes pensées, hein, quelque part, de ce que tu as voulu nous montrer en tout cas.
C'était vraiment une volonté en tout cas de proposer au maximum quelque chose d'immersif. Et qui soit dynamique aussi. On travaille mmh. beaucoup sur les échelles, sur vraiment différentes propositions, parce que finalement, ce qu'on ressent au quotidien, c'est, pour moi, c'est jamais plat, quoi. Ça évolue énormément, et je voulais qu'on puisse ressentir aussi ça dans le déroulé de l'exposition.
Une ou deux minutes, Tom? On ne sait pas. Une à moitié. Ok, d'accord. Bon, on finira là-dessus de toute façon. Cette exposition, elle est toujours visible à l'espace Feuillade à la ville de Lunel jusqu'au 16 novembre. À tous les scolaires qui nous écoutent ou aux enseignants, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'aime bien animer des visites guidées avec les élèves. C'est toujours cool. Ah, j'ai encore du temps apparemment. Ok, d'accord. Le mot de la fin, Clara. C'est passé très très vite en même temps. Donc oui, s'il y a des profs, des élèves qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous solliciter, parce que on peut venir à votre rencontre et vous expliquer un petit peu cette exposition, et puis plus largement le projet Contre-Courant, notamment la fresque de Mathieu qui a été réalisée à la station d'épuration. Quand même, je vais finir là. Je pense que c'était bien. Merci beaucoup, Clara. C'était très chouette d'en savoir plus et d'avoir passé ce court moment avec toi. Peut-être que tu reviendras d'ailleurs.
Ah, qui sait. Merci à toi. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir... les graffeurs comme des délinquants, on s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.